Docteur Michel Habib, bonjour.
Bonjour.
Docteur Michel Habib, vous êtes neurologue et vous vous occupez de Réseau 10. Alors, Réseau 10, qu'est-ce que c'est ?
Réseau 10, c'est une association qui gère un réseau de santé consacré aux enfants ayant des troubles d'apprentissage qu'on appelle communément des 10.
Alors, docteur, je crois qu'il y a une spécificité chez vous, c'est que vous travaillez avec un ensemble de personnes. Est-ce que vous pouvez nous détailler quel est cet ensemble de personnes assez innovant dont vous gérez les fonctions et les compétences ?
Bien sûr, et ça a été un peu la mission qu'on nous a confiée il y a maintenant 8 ans à la création de ce réseau, d'essayer de mettre en relation entre eux des professionnels de différentes branches qui avaient tous en commun une spécificité sur le traitement des enfants 10. Alors quand on dit 10, il faut peut-être rappeler que 80% de la problématique des 10, c'est les problèmes de lecture, c'est ce qu'on appelle la dyslexie. Et effectivement, au niveau de la dyslexie, ce sont les orthophonistes qui sont les personnages principaux au niveau du traitement de ces enfants-là. C'est eux qui font le diagnostic, c'est eux qui mettent en place la rééducation. Je devrais dire elles, parce que ce sont même plus souvent des femmes que des hommes orthophonistes, mais il y a les deux. Mais seul, l'orthophoniste ne peut pas gérer tous les cas, et en particulier les cas les plus sévères, ceux qui nous concernent le plus. Et là, on a vraiment besoin d'une équipe multidisciplinaire.
Docteur, je crois que cette équipe multidisciplinaire passe, d'après ce que j'ai compris, avant tout par la scolarité, à savoir les enseignants.
C'est ça. Alors, dans l'équipe pluridisciplinaire, on va dire qu'il y a deux versants. Il y a le versant médical et paramédical et le versant scolaire. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Qui plus est, ce qui est encore plus important, c'est d'établir des relations étroites et bilatérales entre les deux versants.
De façon à ce que l'un et l'autre travaillent en synergie et se complètent.
Bien sûr, avec d'une part la possibilité pour le thérapeute, celui qui prend en charge la rééducation, de savoir quelle est l'efficacité de sa thérapie par rapport à la réussite ou aux difficultés que connaît l'enfant dans son milieu scolaire, et à l'inverse, que l'enseignant puisse être bien au courant des méthodes utilisées par le thérapeute pour pouvoir éventuellement adapter les mêmes méthodes dans son enseignement.
Je crois que Réseau 10 a passé une convention avec l'éducation nationale et que les enseignants ont une espèce, alors là vous allez nous l'expliquer, une espèce de grille de pré-évaluation qui va dans un deuxième temps, si l'enseignant le juge nécessaire, conduire au médecin scolaire et qui médecin scolaire va lui orienter vers votre réseau.
C'est ça, vous avez un peu fait la hiérarchie des événements à partir du rôle de l'enseignant qui est majeur dans ce qu'on appelle le repérage, puis celui du médecin scolaire qui est déterminant pour le dépistage, vous voyez c'est un peu différent. Repérer, c'est juste avoir une idée de ceux parmi les enfants qui vont poser les problèmes, et dépister, c'est préparer le diagnostic. Et puis, troisième étape, c'est ce qui nous concerne, nous, précisément dans le réseau, c'est faire le diagnostic lui-même. Et les trois étapes de cette démarche sont indissociables l'un de l'autre. Il est évident qu'on ne peut pas se passer des deux étapes précédentes pour pouvoir faire un diagnostic.
Il y a peut-être 2 ans, je crois, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et vous m'aviez dit qu'il y avait peu, voire même pas, de médecins formés aux dyslexies, dysorthographie, dyspraxie. Qu'en est-il maintenant ?
Jusqu'à présent, les seuls médecins vraiment formés, ce sont les médecins scolaires dont vous citiez l'existence tout à l'heure. Ils sont évidemment une étape clé dans le diagnostic et dans la prise en charge, mais ils ne sont pas en nombre suffisant pour gérer la totalité des problèmes. Et surtout, par rapport aux familles, ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes des familles. Une famille va s'adresser, par essence, je dirais, à son médecin généraliste, à son médecin praticien, pour tout ce qui concerne les souffrances, les difficultés, les handicaps de l'enfant. Or, jusqu'à présent, les médecins n'étaient pas du tout formés à ça. Il y avait à peine 1 ou 2 heures d'enseignement sur la dyslexie dans toutes les études de médecine. Vous vous rendez compte à quel point c'est dérisoire, eu égard à la complexité du problème de ces difficultés qu'on appelle dyslexie, dyspraxie. Les médecins étaient totalement perdus par rapport à ça. Donc, une de nos missions dans le réseau a été récemment de former ce qu'on appelle maintenant des médecins Réseau 10, des médecins capables d'être des interlocuteurs valides face aux familles ayant des enfants qui présentent ces difficultés.
Docteur Habib, je crois qu'avant, ces structures n'existaient pas. Vous êtes, depuis combien de temps êtes-vous en fonction, dirais-je ?
Alors, Réseau 10 existe depuis 2002. Depuis, en fait, finalement, le plan d'action interministériel qui nous a missionnés au départ. Et on était les premiers en France à mettre en place un réseau multidisciplinaire régional. Depuis lors, on a été suivi par une vingtaine d'autres régions qui font un peu ce qu'on a commencé à faire avec un décalage de quelques années. Et ce qui nous donne un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'avec le recul, on a pu affiner notre action. Et l'inconvénient, c'est que la structure du réseau n'étant pas pérenne, les personnels s'essoufflent un petit peu et on est en train de chercher à à pérenniser sous une forme ou une autre nos différents personnels.
Pérenniser, cela veut dire aussi des budgets peut-être par les budgets de l'ARS.
Nos tutelles ont des budgets à nous consacrer. C'est elles qui décident de la répartition. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'on nous écoute dans les choix et les options que nous, sur le terrain, leur suggérons.
Vous avez une action par rapport aux organismes qui déjà existent à l'heure actuelle, est complémentaire. C'est-à-dire vous avez aussi un aspect médico-social, social dans le sens où vous apportez votre réseau aux portes des écoles.
Ça fait partie de cette évolution depuis le début de notre existence, je dirais. Une prise de conscience de la dimension sociale autour de ces problèmes de dys, que ce soit chez les enfants dyslexiques ou dyspraxiques ou autres. On ne peut pas dissocier en fait, l'aspect thérapeutique et rééducatif, qui est notre rôle principal, de l'aspect éducatif et de l'aspect pédagogique. Et ces trois fonctions, finalement, définissent ce qu'on appelle le médico-social. Rééduquer, éduquer et enseigner. Et finalement, on a une structure que nous gérons à Réseau 10 qui s'appelle un CESAD, qui est typiquement de cette triple mission. Ce sont des professionnels qui sont des grands spécialistes de la dyslexie, ce qui est tout à fait nouveau. Et donc, en intervenant au sein même de l'école, c'est là qu'ils sont vraiment le plus efficaces pour des enfants dont l'emploi du temps, souvent, est un emploi du temps de ministre. Ils ont besoin de la rééducation de l'orthophoniste, du neuropsychologue, du psychomotricien, parfois d'un ergothérapeute. Et si les parents ont à les trimballer d'un endroit à un autre à longueur de journée, en plus de leur scolarité, on imagine que ça devient invivable.
Votre réseau a intégré quelque part tous ces protagonistes qui interviennent autour de l'enfant.
C'est ça. Et dans les cas les plus sévères, ces protagonistes doivent nécessairement s'articuler de façon optimale avec ce qui se passe au niveau scolaire et donc, si possible, intervenir dans l'école. En dehors de ce CESAD, c'est pas possible. Aucun professionnel n'intervient dans l'école autre que les enseignants.
Docteur Habib, si un médecin ou une orthophoniste désire prendre contact avec vous pour participer à votre grande aventure que je trouve formidable, comment vous contacterait-elle ?
C'est tout simple, vous pouvez consulter le site de Réseau 10 qui est réseau10.org, et à partir de là, vous avez toutes les adresses de nos 6 pôles régionaux et de notre administration centrale ici à Marseille.
Docteur Michel Habib, je vous remercie beaucoup et nous souhaitons bon courage et bonne continuation. Mes meilleurs vœux pour cette année 2011, pour Réseau 10 et pour vous-même.
Merci beaucoup à vous.